Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women in Copernicus.
Women in Copernicus est une initiative née en 2020 sous l'impulsion de 7 femmes actives dans les programmes de l'observation de la Terre de l'Union Européenne.
Nous partageons la volonté de donner la parole aux femmes, d'être plus visibles et mieux reconnues dans un domaine où nous sommes souvent peu représentées.
Nous avons voulu, Roberta, Gwenaëlle, Guglielmo et Marie, vous raconter des histoires des femmes, ici, en Bretagne.
Avec elles, nous vous ferons découvrir un domaine qui nous passionne, autour d'images satellitaires, de technologies, de compétences et bien sûr, de femmes. Pour travailler dans le milieu de l'observation de la Terre, on peut prendre différents chemins. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous, impliquent de passer quelques années à se former et à découvrir les subtilités de ce domaine. Nous rencontrons Léa Claire, qui vient de terminer un master en télédétection et environnement à l'Université de Rennes 2. Passionnée par tout ce qui touche à la nature, lorsqu'elle se balade, elle ne peut pas s'empêcher de s'arrêter de nombreuses fois pour inspecter les petites bêtes sur son chemin.
Au lycée, elle s'est engagée dans les CVL, les conseils des délégués pour la vie lycéenne, pour travailler sur les sujets de harcèlement entre étudiants. Après un lycée économique et social, elle rencontre les sciences et l'environnement, pendant sa licence à l'Université de Perpignan. Arrivée à Rennes pour poursuivre ses études dans les masters Telle Envie, Contraction de télédétection et environnement, elle a découvert l'utilisation des drones, qui peuvent être utilisés, entre autres, pour l'étude des milieux naturels. Et maintenant, elle espère transformer cette passion en un métier. On lui demande en quoi consiste son master Telle Envie.
On étudie du coup la télédétection. Alors, c'est assez compliqué à définir spontanément. Pour moi, ça serait essayer justement de saisir en fait tous les objets terrestres, même marins, donc tout ce qui est à la surface de la Terre. On va essayer de le capter avec justement par exemple des capteurs qui vont enregistrer par exemple des signatures spectrales, de radar, etc. Donc plein de types de formats pour essayer ensuite de les interpréter, d'appliquer des traitements pour essayer d'avoir une meilleure compréhension en fait du milieu. Mais ça dépend aussi des thématiques. Et du coup, au niveau de la télédétection ici, elle est extrêmement orientée en fait environnement, tout simplement aussi.
Les capteurs sont des instruments qui mesurent un phénomène physique. Imaginons de vouloir prendre un objet en photo, disons un arbre. Pour cela, on a besoin de plusieurs éléments. L'arbre qu'on veut photographier, de la lumière qui l'illumine, comme par exemple la lumière du soleil, et un appareil photo. Dans l'appareil qu'on utilise, il y aura un capteur qui va collecter la lumière du soleil reflétée par l'arbre. Puis, l'appareil la transforme en photo. Les capteurs utilisés en télédétection sont installés sur nombreux types de supports, sur des satellites, sur des drones ou encore sur des avions. Et cela nous permet de prendre des photos de la Terre pour mieux comprendre ses changements et ses évolutions. Les images qu'on utilise sont prises à distance, sans contact avec l'objet qu'on étudie. C'est pour cela qu'on parle de télédétection. Étymologiquement, télé veut dire à distance, donc détection à distance.
Il existe deux domaines en télédétection. Le premier domaine est la télédétection active, où l'on capte des rayonnements émis naturellement, comme un paysage de jour avec la lumière du soleil. Pour donner un exemple, cela englobe les ondes du domaine optique, c'est tout ce que l'humain peut voir à l'œil nu. Le deuxième domaine est la télédétection passive, où le capteur envoie lui-même des ondes, puis les capte en retour. Là, ce sont plutôt des ondes radar qui permettent de détecter l'humidité le jour ou encore de voir à travers les nuages la nuit. Après avoir étudié dans un lycée économique et social, elle s'est lancée dans une licence de géographie. Un parcours qui peut sembler étrange. Mais comment est-elle arrivée à ce choix? Quelle a été son inspiration?
Vraiment un moment en plus dans mon parcours qui a vraiment changé beaucoup de choses. Il faut savoir que j'étais à Perpignan, au lycée Arago. Et j'étais en terminale et je venais de finir mon bac donc SES que j'avais détesté au plus haut point. C'était vraiment pas pour moi l'économie et... Je suis totalement perdue à la fin du lycée, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans une filière que je déteste, que je veux fuir, je veux littéralement m'en aller, donc je veux aller ailleurs. Je vais à la conseillère d'orientation et là elle me dit ah oui je commence à cerner ton profil, je pense que tu es faite pour faire des carrières sociales etc. Donc tu devrais aller là-dedans, même éducateur spé ça devrait te convenir et tout. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en fait pour éducateur spé, je me suis inscrite au concours etc. Mais en même temps en fait j'avais... une de mes profs en histoire-géographie, et elle me dit « J'ai vu tes choix, mais ce sont bizarres tes choix, je te connais Léa, et non, ça te va pas. » J'étais Ah si, c'est ce que je veux faire. Donc moi je m'étais totalement imprégnée en disant si, je veux être éducateur spé. Et elle me dit, dans tous les cas, tu dois faire un vœu à la fac. Et elle me dit, je te conseille la géographie. Et quand elle me dit ça, je suis déballée parce que je me dis, la géo, je suis nulle en géo. Je suis vraiment une catastrophe. Je me dis, waouh, c'est ma prof d'histoire géo. Elle voit mes notes en histoire, elle me dit 20 géo. Je me dis, non, elle veut me saboter, c'est pas possible, c'est bizarre. Je le fais, parce que franchement, bah, de toute façon, elle était au-dessus de mon épaule. Donc je me dis, oui, je clique, madame, je clique, y a pas de souci. Et donc je fais mes concours d'éducateur spé, je les ai pas. Et ça, j'étais un peu déçue, je me disais, ah, je me suis plongée dedans, je me suis préparée au concours, j'ai pris, etc. J'ai fait des recherches et ouais, j'étais un peu déçue de ça. Donc je tombe à la fac, en géographie, à Perpignan. Et moi, la première semaine, je regardais les profs de travers, j'étais infecte, je me disais de toute façon, je veux pas rester là et tout, c'est pas pour moi, j'aime pas la géographie. Une semaine passe, la deuxième semaine passe, et là je me dis, mon Dieu, c'est mon domaine, je veux y rester, c'est magnifique, les cours m'ont convaincue, mais c'est quoi cette matière en fait qui regorge de... Mais de surprise, c'était la géographie, c'était pas du tout celle qu'on m'avait enseignée en fait, qu'on m'avait enseignée dans mes cours, enfin c'était rien à voir. J'étais contente parce que je retrouvais un peu des thématiques d'SVT, je retrouvais du social que j'avais adoré dans mon bac économie et sociale. Et ah ouais, franchement, la géographie, je découvre ça, je tombe de haut. Même les gens, quand je leur dis, je suis en géographie, les gens, ils ont aucune idée de ce que je fais, je leur explique, ils se disent, ah ouais, tu touches à tout en fait, puis n'importe quoi un peu, je suis en mode, pas non, c'est quand même dans un cadre. Voilà, c'était compliqué aussi à devoir expliquer aux gens, mais si tu vois, la géographie, c'est le moment où l'homme, il interagit avec son milieu, tu vois. Puis alors là, ils me regardaient en mode, ouais, mais c'est vaste. Oui, mais c'est un cadre quand même, enfin, il y a un cadre.
Après les deux premières années passées à Perpignan, Léa décide de partir à Rennes avec son copain pour la troisième année de licence. Elle nous raconte que le changement de la petite fac à la ville ne s'est pas fait sans difficulté.
J'avais pris la licence 3 environnement en géographie et les cours commencent à Rennes et là je suis totalement déstabilisée, mon Dieu, j'arrive, je fonds, il y a tellement de monde. Moi je suis comme ça, je me dis c'est pas grave, il y a du monde dans les couloirs mais... On va être allé, je sais pas, une vingtaine à tout casser. Quoi. Non, on arrive, je sais pas, on est 60, je me dis, ah. Et en fait, ouais, c'est dur, c'est super dur parce qu'en fait, on est un étudiant noyé dans l'inconnu. Moi, je venais de ma petite fac de Perpignan où le professeur, je le voyais dans le coin de la rue, je disais, oh, vous habitez ici, etc. Et ici, j'étais en mode, ah ouais, d'accord. Ouais.
Le cocon de Perpignan est maintenant derrière elle et Léa a perdu un peu de confiance en elle. Mais au-delà de la dimension dispersive d'une grande université, nous lui demandons comment elle a vécu cette transition, par rapport aux cours et aux autres étudiantes et étudiants.
Alors, je l'ai vécu super mal. Je l'ai vécu tellement mal, c'était pas une dépression, mais presque en fait, je voyais un écart qui s'était creusé énormément. Alors en plus, moi je me sentais totalement nulle. Moi je voyais des garçons dans ma classe, je me disais, ouais non mais eux voilà, c'est normal qu'ils y arrivent, de toute façon moi... Enfin, moi, c'est que du joujou que je fais. Je prenais vraiment pas au sérieux ce que je faisais avant à Perpignan. Et là, j'arrive, je me disais, ah d'accord, tu peux faire ça. Ah ouais, c'est stylé, c'est assez impressionnant. Puis pareil, les autres filles, pareil, tout ce qu'elles faisaient, je me disais, ah ouais, non, mais je suis tellement loin derrière toi, je vais jamais y arriver. Ah ouais, ça a été super dur. Je me suis très vite isolée. J'avais peut-être 2-3 amis à la rigueur et c'était tout. Et pourtant, je participais à des travaux de groupe, mais... C'est pas pour autant, en fait, j'avais toujours l'impression d'avoir un train d'avance, en fait, sur tout ce qu'ils pouvaient penser.
Je comprends tout à fait Léa dans ce qu'elle dit, j'étais un peu dans le même cas. Je suis arrivée en licence 3 après un IUT et c'était un peu dur de raccrocher le wagon. Ce qui m'a aidé à m'en sortir, en fait, c'était aussi certains cours, comme le cours de télédétection, qui à l'époque était tenu par une doctorante. Et je lui demande donc si elle aussi a des coups de cœur pour certains cours ou des enseignants qui ont pu l'aider.
Ah mais totalement, en vrai, c'était les cours qui me... C'était les cours, en fait, qui me maintenaient hors de l'eau, parce que c'était super passionnant d'un autre côté. Ok, je me faisais rabaisser parce que je me comparais aux autres et que je me disais, mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Mais d'un autre côté, je me disais, mais c'est tellement jouissif d'avoir ce genre de cours, parce que j'avais une qualité tellement différente. Et j'avais des volontés, j'avais des requis, en fait, quand je voulais, il y avait des cours que je voulais à tout prix. Au final, j'ai été super déçue d'eux. Il y avait des cours auxquels je m'y attendais pas. Et ça a été vraiment des bouffées d'air. Il y a eu un atelier au niveau de l'environnement. C'était un truc où tu pouvais t'exprimer, etc. Et c'était tellement génial.
Sa licence en poche, Léa décide de poursuivre ses études à Rennes, dans ce qui la passionne le plus, l'observation de la Terre. En passant de la licence au master, l'atmosphère peut changer à nouveau. On lui demande alors comment était l'ambiance dans sa promo de master.
Parce que je suis arrivée en telle envie, alors là j'ai envie de parler de ma promo. Parce que c'est une promo avec une parité mais absolue. Moi, je crois qu'il y avait 15 filles, 15 garçons. Et là, on était très étonnés, en fait, à se dire « Waouh, il y a autant de filles », alors que c'était un domaine où on se disait c'était ultra technique. Moi, je m'étais dit dans ma tête « Je vais être la seule fille, honnêtement ». En fait, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais faire un milieu technique. Parce que justement, en fait, toute ma vie, on m'a dit « Non, mais va dans du social et tout », mais c'était un peu « Non, mais t'es une fille, va dans du social », c'était évident. Et moi, j'étais en mode « Bah non, moi, j'aime bien jouer au truc de garçon, c'est bon, moi, je veux jouer avec leur machin, là, l'ordinateur, oui, moi, je veux y aller ». Mais pareil, au début, j'avais des amis autour de moi, ils codaient, etc. Je me disais « Non, mais je suis une fille, tu vois, je veux pas coder ». Enfin, j'étais en mode « Non, mais c'est vraiment un truc de garçon, coder, je veux... » Et pareil, en fait, je me suis rendu compte que le fait qu'il y avait autant de filles dans ma promo, ça m'avait donné un confort énorme, en fait, parce que c'était... Il y avait les garçons, en fait, des fois, qui pouvaient... avoir leur côté du celui qui va crier plus fort, et des fois c'était juste super chiant à dire c'est qui avait la plus grosse, et je me disais non, mais en plus le pire c'est que ils riaient de ça, c'est à dire que quand on leur montrait sous le nez, ils en riaient, ils disaient non mais ah ouais c'est vrai que oh, les gamins et tout, tu disais ah mais c'est super chiant. Mais du coup ouais, j'étais contente en fait d'avoir autant de filles avec qui me tourner, avec qui puis c'est bête à dire, mais ouais, les filles elles étaient là, et ça avait tellement donné en fait dans la promo beaucoup de bienveillance. Beaucoup, pas de maternité, mais c'était vraiment « t'inquiète, tu vas y arriver et tout, on est tous là, on est tous ensemble, on va pas te juger ». Et ça revenait énormément, en fait, de la bouche de toutes mes potes. Et du coup, bon, je reviens en M2, on est tous contents et tout, puis alors là, grande surprise, il y en a qui sont partis du coup du M1, et il y a des nouveaux qui sont arrivés. Et par ce fait-là, du coup, il y avait plus de filles que de garçons. Alors ça, c'est un truc que je peux dire, les garçons se dispersent énormément. Et les filles arrivent très bien à remettre un cadre, ça c'est impressionnant. Mais ça, je l'ai vu à chaque fois que je tombais dans un groupe de garçons, je me disais, cadre. Puis ouais, des petits combats de coq, même entre garçons et filles, à dire, pas forcément qui est la plus grande, mais à dire, non, je sais ce que je fais, oui, mais moi aussi. Oui, je ne le nie pas, mais moi aussi. C'était un peu à dire, qui va avoir raison en fait, qui finalement va mettre... devant son travail et pas l'autre, et là des fois c'était un peu compliqué, je tiens, tu me laisses pas de place là, donc bouge un peu.
D'où vient ce besoin, comme il dit, de maintenir le travail qu'on fait à sa place? Parfois j'ai le même sentiment avec certains collègues. Par exemple, je réagis différemment si c'est un garçon ou une fille qui me coupe la parole. Je lui demande du coup si elle ressent la même différence.
Il y a des trucs où par exemple si c'était un garçon ou une fille qui changeait je sais pas, un truc ou un travail que j'avais fait, ça m'était totalement égal. Par contre, il y avait des trucs, genre, je supportais pas tout le temps. Je me disais souvent, quand ça venait de certaines filles de mes potes, je me disais toujours, ça se voulait bienveillant. Genre, j'étais toujours en train de me dire, ah ouais, non mais elle a raison, je me remettais plus facilement en cause. Bah, du coup, les 10 références de réaction, c'était aussi que, ouais, c'était de la manière aussi de comment ils m'abordaient, en fait. Déjà, genre, ce que j'aime bien, c'est genre... Le regard, en fait, quand on va me dire « Ouais, Léa, t'as fait une connerie », j'aime bien que tu me regardes dans les yeux pour me le dire. J'aime pas qu'on me dise « Bon, t'as fait une connerie, vite, tiens, allez hop, je te le refourgue et tu m'expliques pas plus, en fait. » J'ai besoin de beaucoup, Et même, c'était dur parce qu'en fait, une fille, c'était bizarre à dire, mais une fille, je sais pas pourquoi, mais les filles dans ma promo, elles se donnaient tellement plus, je trouve. Elles voulaient travailler, elles leur en redemandaient, alors qu'à côté, t'avais des garçons, sans déconner, ils choisissaient leur thématique, et des fois, c'était les plus gros fainéants, et t'étais deg d'être tombé avec eux dans le truc, tu disais, mais... Oh.
Dans son parcours, Léa dit souvent avoir manqué de confiance. Pourtant, elle a toujours continué avec force. Son expérience peut devenir un modèle aussi pour les autres. Par exemple, en donnant des recommandations à ceux et à celles qui se disent au début « je ne vais pas y arriver ».
Alors ouais, du coup, ouais, non, mais j'ai tendance à énormément me dévaloriser, c'est impressionnant, c'est super dur. C'est dur à vivre, hein, parce que c'est... Enfin, le truc, c'est que c'est impressionnant, parce que ce que je me dis, je laisserai pas quelqu'un d'autre me le dire. Genre, ah non, pourtant je me le dis, et je me le fais. Il y a aussi énormément de remise en question. Pareil, ça c'est super dur de se dire, ouais, mais j'en suis pas capable. Mais une petite barrière comme ça, tac, t'en es pas capable, tu voilà, super champion, le déni, etc. C'est un truc que tu veux faire, mais tu te dis, non, mais j'ose pas, mais non, mais oh là là, mais ce que vont penser les autres de moi. Et en fait, tu te dis, les autres, oh bah ils s'en foutent cordialement, hein, de ton parcours, en fait, c'est ton choix, hein, c'est pas leur problème, c'est pas leurs oignons. Donc ton pire ennemi, c'est toi-même, ton pire ennemi, c'est ton cerveau, et si tu devrais te battre contre quelqu'un, c'est contre toi-même, pour justement, en fait, aller plus loin. Et vraiment te donner les chances, en fait, d'avoir ton bonheur. Donc voilà.
En effet, comme elle dit, la télédétection est un domaine assez technique. Et en plus, dans l'imaginaire, dominé par des hommes. L'envie de combattre les stéréotypes et les discriminations liées au genre commence pour elle très tôt. Déjà au lycée, il était investi dans le CVL, le Conseil des délégués pour la vie lycéenne, dans la cellule contre le harcèlement. On lui demande comment s'est passée cette expérience.
Alors, faut savoir que ouais, je suis atterrie au CVL, parce que j'avais envie d'y aller. On m'a dit, voilà, il y a telle thématique, tu te sens chaud d'aller dans quoi ? Et je me suis dit, je vais aller dans celle du harcèlement, je vais aller dans celle des problèmes, etc., qu'on peut rencontrer au lycée. Et que, bah, j'étais naïve hein, quand même à l'époque, hein, parce que mine de rien, il y a plein de trucs qui se sont ouverts, il y a eu des discussions, il y a eu des... comment expliquer ça ? Il y a eu un peu des ouvertures, en fait, de débat en disant... Est-ce que vous vous sentez harcelé, etc. au lycée ? Est-ce que vous, vous avez des appréhensions ? Vous vous sentez mal vis-à-vis d'un professeur qui, enfin, on avait fait plein de trucs, on avait fait plein d'interventions, etc. Et en fait, les retours, bah, en fait, quand t'es au lycée, bah, t'es pas prêt, en fait, à faire ça. Lycée Arago, c'est un lycée qui est assez renommé, en fait, à Perpignan. Arago, c'était du public, mais il se voulait, en fait, comme un lycée d'élite. On accueille tout le monde, mais on accueille les meilleurs. On accueille tout le monde, c'est du public, mais on est quasiment à ça du privé. Il y a des histoires, du coup, qui ont été révélées. Du coup, je vais en faire un qui a été... lui, il a été public, donc je vais pas avoir de problème à en parler. C'était, par exemple, un gars qui s'était pointé en disant « Je suis homosexuel, je me fais harceler sur mon homosexualité. » Voilà, donc sur Snap, en fait, ils me prennent en photo, ils me dessinent des grosses tubs, etc. Ils mettent du foutre et tout, et t'es comme ça, j'ai... Ah !
Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes. Des vidéos dénigrantes, des commentaires dérangeants, des propositions inappropriées jusqu'aux insultes, du harcèlement physique et aux menaces quotidiennes. Une étude IFOP, une société de sondage et d'études de marché, qui a été conduite en 2019, montre qu'au moins 30% des Françaises ont vécu au moins une fois dans leur vie un épisode de harcèlement sur leur lieu de travail. Et dans cette étude, seules les femmes ont été consultées, pas les autres catégories. Les types de victimes du harcèlement sont très hétérogènes. C'est un phénomène qui touche en majorité les femmes, sans rapport avec leur niveau de scolarité ou de revenus. Par contre, les travailleuses semblent d'autant plus exposées lorsqu'elles sont jeunes, discriminées pour leur orientation sexuelle ou leur religion, si elles ont déjà été victimes de violences sexuelles ou encore si elles sont employées dans un environnement de travail plutôt masculin. Bien que très répandus, les épisodes de harcèlement restent très souvent sans conséquences pour les harceleurs, comme c'était le cas pour l'exemple porté par Léa.
Il arrivait avec plein de trucs de témoignages et tout, puis on disait « Ok, on va pas laisser faire ça, on va déjà en parler à ton prof principal, t'en as parlé à d'autres personnes et tout, puis alors là il me dit « Mon prof principal est au courant. » D'accord, il a fait quoi ? Rien. Ah, merde. Du coup, on était, putain, mais en plus, on n'avait pas d'outils en plus à cette époque-là. Du coup, c'était horrible. Du coup, on se disait, bon, il n'arrive vraiment rien fait ? Du coup, on va revoir le prof principal. On lui dit, non, mais alors, par contre, on a des images, on a des textes et tout. C'est assez grave, en fait, ce qu'il subit. Il faut quand même intervenir. Et la personne lui dit, ouais, mais c'est pas un truc qui est direct, qui se passe directement, en fait, en classe. Je fais, bah, je suis du tout de moi, quoi. Enfin, la photo, elle a été prise en classe, tu vois. Enfin, ça mène à rien. Tu te dis, bon, bah c'est pas grave. Ah, tu te dis, ah ouais, c'est pas grave, parce que tu sais quoi, je suis au CVL, j'ai un moyen de pression, je vais voir le directeur. Mais la pire idée ! Toi, en fait, t'arrives au directeur en disant, monsieur, voilà, il y a un truc de harcèlement, on a peut-être. Donc voilà ce qu'il subit, il y a des témoignages, etc. Le professeur est au courant. Et alors là, il nous a dit, ah, mais vous inquiétez pas, je connais cette affaire, et votre affaire n'ira pas plus loin que le fond de la poubelle, et tu faisais, oh, merde. En plus, on passait tellement pour des nuls parce qu'à chaque fois, on disait t'inquiète, on a une solution. Et on était tellement discrétisés. Enfin, ah, puis alors. Après, on est fin. On n'avait aucun pouvoir, quoi. Et puis, c'est... alors, le moment horrible, ça a été en fait la sous-directrice qui était lesbienne et en fait, qui avait vu ça et qui était en mode on est désolé de pas pouvoir intervenir, on est désolé de pas pouvoir prendre appui. Et puis, genre, ouais, elle s'était mise à pleurer. Oh, c'était dur. C'était dur. C'est que on lui avait demandé en fait, enfin, mais pourquoi le directeur il avait, et en fait on nous a laissé comprendre que il y avait une image à tenir et qu'il fallait pas que ça passe en fait dans les médias, fallait pas que ça passe dans le journal, etc. Et du coup c'était faut taire l'histoire.
Malgré les voix qui se sont élevées ces dernières années, par exemple avec les mouvements MeToo ou Balance ton porc, parler en public de ces sujets reste difficile. Trop souvent, les institutions, la hiérarchie au travail, voire les témoins, décident de taire les histoires de harcèlement.
Les mouvements moins connus « Why I Didn't Report » a contribué à comprendre pourquoi de nombreuses formes d'harcèlement ne sont pas reportées. Les causes les plus répandues sont les sentiments de honte, de culpabilité des victimes et les dénis. C'est dire que c'était sa propre faute si on a été harcelé. C'est convaincre que ce qui s'est passé n'était pas vraiment une grosse affaire ou qu'au final, ce n'était pas si mal que ça. Les sentiments d'impuissance et la peur de conséquences, comme par exemple la peur de perdre son emploi, la peur de ce que les gens vont penser, sont aussi d'autres raisons qui poussent les victimes au silence. C'est l'impunité des harceleurs et la culpabilisation des victimes qui conduit à autoriser la violence, que ce soit verbale, psychologique ou physique, et à transmettre l'idée que ces comportements, bien que critiquables, sont au fond acceptables.
Ce qui s'était passé au lycée, c'était vraiment très dur. Si quelqu'un en fait me vient me voir personnellement en disant voilà ce qui se passe, etc., je lui dirais t'inquiète, je sais, en fait, genre, j'ai déjà appréhendé le coup, je sais comment faire, je peux te rassurer, etc., t'inquiète, enfin, mais que du coup je ne pourrais plus m'investir parce que c'était vraiment très dur. Et que ouais, du coup maintenant, genre, bah, j'encourage hein, les gens qui se sentent de le faire et tout, c'est chouette, c'est plus que chouette, c'est trop bien. Par contre, ouais, faut encaisser quoi. Parce que les gens, en fait, à chaque fois, on se dit ouais, il va arriver, il va dire oh là là. Il y a un tel... Enfin, en fait, le harcèlement, mais on n'imagine pas à quel point ça va jusqu'où, en fait, ça détruit des gens. Ça détruit des gens, puis en plus, c'est pas un truc que tu peux réparer, en fait. C'est genre, non, ça sera cassé, hein, ça sera cassé. Enfin, genre, il pourra se reconstruire, mais à côté. Mais ça, c'est cassé, par contre. Genre, ça tu l'as tellement bousillé, tu te dis, non, mais ça, c'est cassé.
On peut se demander quel est le lien entre l'harcèlement scolaire et la place des femmes dans un milieu de travail. On pourrait penser que les effets du harcèlement scolaire, avec le temps et l'âge, disparaissent. Hélène Valsedelara, professeure de travail social à l'Université de Syracuse aux États-Unis, a étudié les effets de ces événements sur la psychologie des adultes, publié dans le livre « Bullying Scars, cicatrices d'harcèlement ». La chercheuse fait l'hypothèse d'un syndrome appelé « syndrome post-harcèlement à l'âge adulte », qui induirait des symptômes comme le manque de confiance en soi, en l'autre et une tendance à la colère. Selon ces études, au moins un tiers de victimes d'harcèlement scolaire développent ces symptômes à l'âge adulte.
L'enquête menée par Women in Copernicus et les témoignages de femmes qu'on rencontre dans ce podcast pointent du doigt le manque de confiance en soi comme obstacle majeur pour avancer dans la carrière. En parlant avec Léa, on s'est demandé comment on peut créer des espaces où le harcèlement est reconnu et combattu pour limiter cette problématique et rendre la science plus inclusive. Pour commencer, il peut être utile de parler de ces sujets en général avec des collègues, des partenaires de promotion et des personnes de notre entourage.
Je peux aller voir un gars dans ma promo, je pense, et lui dire « raconte-moi un de tes derniers harcèlements ». Déjà, lui, il n'y a pas le mot harcèlement, tu vois, il se dit « non, mais c'est pas clair, ta question, elle est compliquée ». Je me dis « pourtant, il n'y a pas beaucoup de mots faciles, normalement ». Et tu te dis « ok ». Et lui, des fois, il va te rechercher loin en disant « ah ouais, si, je m'en rappelle quand j'étais en primaire, etc. » Tu faisais « ah ouais, non, moi, je peux te donner un laps de temps de une semaine. » Il y a une semaine, je me suis fait harceler encore, il n'y a pas plus longtemps que, voilà, quand je suis rentrée en cours. Et lui, il ne te croit pas, en fait. Lui, il dit « mais arrête, c'est toi qui en fais des tonnes, tu surjoues et tout. » Et là, c'est horrible parce que là, c'est ton petit cœur qui se brise parce que tu as beaucoup d'estime pour la personne. Et là, en fait, elle ne reconnaît pas que quelqu'un t'a agressé, que quelqu'un t'a harcelé. Tu dis « mais si, c'est du harcèlement. » Et la personne, elle est là, mais arrête, c'est bon.
La pyramide de la violence est un concept largement utilisé en sociopsychologie pour expliquer la violence fondée sur les genres. À la base, on trouve les attitudes et les croyances, comme le fait que les femmes ne sont pas bonnes dans les domaines techniques. Puis les blagues sexistes ou le fait de ridiculiser les autres. Ensuite, les actes discriminatoires, les harcèlements et toute forme de violence psychologique et physique. Des fois, ces actes à la base de la pyramide pourraient nous sembler petits. C'est juste une blague, on dit. Mais leur banalisation conduit à une culture qui facilite les formes supérieures des violences. On autorise à placer la barre plus haute. Or, certaines institutions essayent de travailler sur le sujet et de contribuer à diffuser une culture différente.
L'université Rennes 2, très active sur le sujet, met en place de nombreuses actions sur l'égalité, comme les mardis de l'égalité, pour en citer une. Après son expérience au lycée, on questionne Léa sur comment elle voit toutes ces initiatives.
Arrivée à Rennes 2, j'ai vu que ouais, en plus c'était super dynamique et tout. Même moi, on m'a encouragée, c'était trop bien. Enfin, les gens, c'est impressionnant, ils viennent te chercher en disant « ah ouais, mais j'ai vu ton profil et tout ». Enfin, c'était un truc de dingue, c'est impressionnant. Et tu te dis « ouais, mais c'est parce qu'il y a aussi le fait que c'est une grande ville, c'est plus démocratisé, il y a plus de possibilités, il y a plus de facilités aussi énormément en fait quand t'arrives là. et que je sais pas, en fait, je me suis jamais relancée dedans, parce que ouais, ça a vraiment été... Je veux finir sur ça aussi, au lycée Arago, je me suis très rapidement rendu compte que j'avais pas de pouvoir. Et il y avait un projet qui était de faire une affiche contre le harcèlement, et du coup je m'étais proposée du coup à faire l'affiche, et j'étais super fière de moi parce que cette affiche, du coup, bah, c'était une affiche lutte contre le harcèlement et il fallait qu'elle soit assez provocatrice, etc. J'ai gagné les régionales et cette affiche, elle avait été imprimée du coup dans tous les lycées collèges et du coup, c'était super chouette parce qu'il y avait plein de... C'était bien parce qu'après, il y a eu des initiatives en fait dans des collèges et dans les lycées vis-à-vis en fait de développer des cellules de, bah, de, d'anti-harcèlement, etc. Mais du coup, bah, c'était... C'était chouette parce qu'il y a des gamins en fait qui sont venus me voir en mode « Mais Léa, j'ai vu ton affiche, etc. » Et j'étais en mode « Oh, yes, c'est trop bien !» et tout, j'étais trop contente. Et ouais, elle a été dévoilée et tout sur les CPE, comme quoi, enfin... En vrai, c'est dur parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir et tout, mais je pense que ouais, tu peux agir, même à ta petite échelle.
Nous remercions chaleureusement Léa pour son témoignage, de nous avoir transmis sa passion pour tout ce qu'elle fait. Aujourd'hui, Léa a terminé ses études, mais a sûrement quelques petits conseils à transmettre pour les auditrices et auditeurs qui aimeraient débarquer ou qui ont déjà un pied dans le monde du spatial.
Ce que je lui donnerais comme conseil, c'est que si elle en est arrivée là, c'est qu'elle le vaut. Elle le vaut clairement, elle n'a pas volé sa place, c'est pas... Et qu'elle est totalement en capacité de faire tout ce qu'elle se permet de faire. Par exemple, quand je suis rentrée en master, je ne m'autorisais même pas à dire « Ah oui, j'ai... une espérance de faire une thèse, enfin genre j'ai une envie de faire une thèse, je le disais même pas, genre c'était en mode un secret. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, bah non, c'est bien en fait d'avoir une ambition, d'avoir une thèse, c'est bien d'être ambitieuse, ça t'amène loin. Et même si en fait les gens n'estiment pas de me donner une thèse ou quoi, et que genre ils estiment pas ma valeur, c'est pas grave, parce que la vie elle est encore longue, je vais encore m'améliorer, je vais même les épater, parce que faut pas croire que tout est un acquis en fait, même pour eux. Même les gens en fait qui sont dans des hiérarchies supérieures ou quoi, on va se dire « Ah ouais, mais regarde, il est arrivé tellement loin ou quoi. » Ouais, non, mais va pas croire que pour lui, tout est acquis en fait. Loin de là, même là encore, maintenant, bah, il se pose des questions, à se dire « Mais est-ce que je suis légitime à être là ?» Enfin, « Oh là là, mais il y a des meilleurs scientifiques que moi, mais ils produisent des trucs meilleurs que moi. » Mais non, en fait, t'as de la valeur. Enfin, mais, sauf que lui, il l'a compris et il arrive à le mettre en avant. Et en plus de ça, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être tout ce que tu veux. Genre moi par exemple, je suis sortie de mes études, mais j'ai fait un stage sur les drones. Ma première ambition, c'est de devenir télépilote. Je m'en fous, je vais trouver une boîte, je vais leur dire « je veux devenir télépilote ». Est-ce qu'on peut faire un arrangement ? Vous me payez mon permis et je vous le rembourse, vous inquiétez pas. Je vous fais du gestion, tout ce que tu veux, pour décerner une réelle envie. C'est un truc qui va tout le temps revenir, qui va te titiller en disant « Ah mais c'est chouette le drone. Ouais mais regarde, il y a tel satellite qui va être lancé. Ouais mais le drone, il y en a plein d'autres. Hein, puis il y a ça et tout. Puis en fait, il y a le truc qui va prendre le pas sur tes idées. Et c'est comme ça aussi que tu peux discerner en fait qu'est-ce qui va te plaire et qu'est-ce que tu veux vraiment faire du coup pour ton avenir. Donc voilà ce que j'essaierai de t'encourager à la fin des études.
Ce qui est chouette dans la géographie, c'est qu'il y a tellement de possibilités, de thématiques, d'outils, qu'au final, on peut se faire son propre profil pour répondre à ce qui nous fait envie, ce qui nous passionne, mais aussi à ce qui est utile pour mieux comprendre le monde et essayer de l'améliorer un petit peu. Cependant, il reste crucial de discuter de la manière dont nous pouvons construire des espaces de dialogue libres, dans lesquels les questions de genre, de harcèlement et d'égalité sont abordées.
C'était Women in Copernicus Podcast, une émission conçue et réalisée par Roberta, Marie, Guglielmo et Gwenaël, en collaboration avec le collectif Women in Copernicus et la Radio CELAB. Musique et habillage sonore de Romain Leduc. Retrouvez les prochains épisodes tous les 15 jours, les mardis de semaine paire à 18h, sur CELAB, la radio sauvage.